nous donne une parole qui vient de lui pour nous enrichir mutuellement, pour nous encourager mutuellement en tout cas. C'est mon désir que la parole de Dieu soit le moyen par lequel nous grandissons devant lui. Donc je m'appelle Jamel Attar, je suis né musulman, je me suis converti quand je suis arrivé en France pour mes études à l'université, et tout de suite après, je savais que le Seigneur m'appelait à son service, au ministère. Donc j'ai abandonné mes études universitaires pour aller à l'Institut d'Algrange, où il y avait Richard Visser, quelques temps avec Karine, sa femme bien sûr, les enfants. Quelques temps après, il y avait Nicolas aussi. Et donc après mes études, je suis retourné à Caen. J'ai continué mes études à l'université et je me suis marié. J'ai 3 enfants qui sont grands maintenant. Le dernier s'appelle Samuel. C'est le dernier qui est avec nous, le petit dernier qui a 19 ans. Et je suis le pasteur de l'église évangélique baptiste à Caen. Je suis en même temps professeur de français et de latin. Donc, ce n'est pas une langue morte. Et si vous ne voulez pas mourir, ne dites pas ça. C'est une langue ancienne. Ça, c'est mon combat avec les élèves. Mais c'est une langue morte, monsieur. Non, une langue ancienne. Voilà, donc, nous sommes vraiment heureux d'avoir appris pour votre projet, nous-mêmes, de construire. Nous-mêmes, nous sommes engagés dans l'Église il y a quelques années dans la construction d'un deuxième lieu de culte qui a ouvert depuis 2018. Et je ne saurais que vous encourager à aller dans ce projet parce que ça vous permet vraiment, ça permet à l'Église de se développer, d'avoir des outils au service de Dieu. Le bâtiment n'est jamais qu'un moyen, n'est-ce pas? C'est pas la fin, c'est pas le but en soi. C'est un moyen, mais c'est un moyen important qui permet aux chrétiens de grandir et d'étendre leur tente, de planter des piquets pour consolider et pour grandir, bien sûr. Donc, je voudrais prier avec vous pour que le Seigneur nous guide en ce moment. Nicolas m'a dit que j'avais 3 heures la première fois. Bon, c'est une journée bien chaude. Et comme le thème le dit, affronte votre ton géant, tes géants. Et cet après-midi, nous allons affronter la chaleur. Donc, si vous avez besoin de boire, n'hésitez pas à aller prendre une bouteille. Je ne sais pas s'il y a des bouteilles ou de l'eau en tout cas. Voilà, on a besoin de se rafraîchir effectivement. Donc, nous allons prier. Notre Père, nous voulons vraiment nous placer devant toi parce que tu nous as donné une parole vivante, puissante, qui construit notre vie, qui nous permet de mieux te connaître, de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre désir premier avant toute chose. Merci de parler à chacun de nous, de nous fortifier. Merci d'utiliser ces moments pour que chaque croyant se tourne vers toi et s'attende à toi afin de mieux t'aimer, pour mieux te servir. Gloire à toi pour tout. Amen. Affronte tes géants. Voilà, ça c'est un sujet qui me semble vraiment fondamental pour tous les chrétiens. Voilà, depuis des années, je suis invité pour des rencontres, pour des conférences, des retraites. Et très souvent, la chose qui revient dans la bouche des croyants, c'est ces difficultés chrétiennes qui reviennent régulièrement. Des choses contre lesquelles nous n'arrivons pas à nous débarrasser et qui rendent notre vie compliquée, notre vie spirituelle compliquée, notre vie relationnelle compliquée. Et pendant ce week-end, j'aimerais vous encourager et à travers la parole de Dieu, ne pas vous donner une recette, mais un chemin à explorer. Il n'y a pas de recette magique. Par contre, il y a une parole de Dieu qui est vivante et vraie. Et quand on la serre dans notre cœur, quand on cherche à la mettre en œuvre dans notre vie, elle va nous aider à avancer sur le chemin de la victoire. Et je voudrais donc vous raconter l'histoire de trois personnes, trois chrétiens, pour commencer. D'abord, Emmeline, une jeune fille de 15 ans. Pendant le confinement, elle a regardé des vidéos sur YouTube, comme 100% des Français. Sauf que les vidéos qu'elle a regardées, c'était des vidéos qui l'encourageaient à avoir un corps de rêve. Et au bout de 3 mois, elle s'est retrouvée anorexique, parce que le corps de rêve qu'elle voulait l'a poussée à restreindre la nourriture, mais au maximum. Au bout d'un an, elle pesait 40 kilos. Et à un moment donné, les médecins ont jugé nécessaire de l'hospitaliser, parce qu'elle n'arrivait pas à reprendre du poids. Et donc on lui a mis un poids minimum en deçà duquel elle devait rester à l'hôpital. Elle a passé 3 mois à l'hôpital. Et quand elle reprend 3 kilos, on lui dit maintenant tu peux sortir. Et quand elle sort, elle perd 5 kilos. Et elle retourne. 3 mois encore. 2 mois encore. Et c'est un combat terrible. Elle n'arrive pas à triompher de ce problème, cette maladie mentale qu'on a mise dans sa tête. Jacques est un chrétien qui sert dans l'église, qui est très engagé, mais il a un petit défaut, comme on dit. Quand il se met en colère, il se met en colère. Et des fois, il dit des choses extrêmement blessantes à sa femme, à ses enfants. Et il le sait, parce que quand il dit des choses blessantes, il voit le visage qui se referme, la douleur qui s'exprime dans les yeux, dans le regard de sa femme, de ses proches. Il rentre chez lui, il est lamentable et il regrette. Et il se promet que plus jamais ça ne recommence. Et une semaine après, la même colère, la même violence dans le langage, les mêmes souffrances dans le cœur des autres. Annie, une autre femme, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'anorexie, c'est le doute. Nous avons chanté « Ta parole est une lampe sur mon sentier » et parfois je doute. Alors, le doute n'est pas un ennemi de notre foi dans le sens où il est quelque chose qui va nous détruire. Par contre, si on ne le combat pas et qu'on le laisse s'installer dans notre vie, il peut devenir un problème. D'accord ? Il ne nous disqualifie pas comme croyants, mais il peut nous éloigner de Dieu petit à petit. Et donc, Annie, c'est une jeune femme qui constamment est assaillie par le doute, parce que quand elle ouvre la parole de Dieu, des fois il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Et parce qu'elle ne comprend pas, elle commence à remettre en question ce qu'elle comprend avant, ce qu'elle croit auparavant. Alors, elle va voir les chrétiens pour s'encourager. On lui explique, on lui dit « Non, mais tu sais, voilà ce que ça veut dire ce passage. » Elle se rassure. Le lendemain, elle lit un passage, c'est encore le doute. Et c'est la spirale, elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors, beaucoup de chrétiens sont comme Amandine, comme Jacques, comme Annie, comme Emmeline. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, nous faisons face à des problèmes qui se sont installés dans notre vie, que nous combattons, mais dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Quand nous croyons nous en être débarrassés, ils surgissent comme ça, d'un instant à l'autre, plus ravageurs, plus meurtriers encore. Tellement de problèmes s'installent dans la vie des croyants. Et croyez-le bien, quand je dis vous, je ne me mets pas à part. Je connais mes problèmes et je prie le Seigneur pour la victoire et Dieu donne la victoire, c'est certain. Alors peut-être que vous avez de très mauvaises habitudes. Peut-être que vous avez des difficultés relationnelles. Ça ne va pas avec les autres. Vous êtes comme un hérisson. Ça pique un hérisson. Hein. Peut-être que vous avez des difficultés d'argent, et c'est là depuis des années et des années. Des problèmes de santé. Peut-être que vous avez des problèmes de culpabilité. Jamais vous n'arrivez à vous saisir de la promesse du pardon de Dieu pour vivre comme un chrétien, une chrétienne libre devant Dieu, avec la joie de s'approcher de lui. Peut-être que vous avez des problèmes de jeux vidéo en ligne, surtout les jeunes, des problèmes de jeux d'argent. Il y a des chrétiens qui sont pris par le jeu d'argent. Et pour se raisonner un petit peu, ils se disent, si je gagne, je donne 10% à l'église. Ça c'est pour, faire taire sa conscience. Peut-être que vous avez des angoisses de l'avenir. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait et vous vivez vraiment dans la crainte, dans l'inquiétude. Peut-être que vous avez une mauvaise image de vous-même. Quand vous étiez petit, on vous a toujours dit, toi tu n'es bon à rien, tu ne sers à rien. Mais t'as vu comment tu es? Mais pour qui tu te prends? Et maintenant, vous vous considérez comme le dernier des derniers. Peut-être que vous avez des problèmes de mensonge, de jalousie, d'envie, d'apathie, de colère contre Dieu. Ça, les chrétiens, ils ont du mal à le croire. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont en colère contre Dieu. Et vous savez que c'est tellement honteux qu'on ne le dit pas. Alors on est en colère contre qui? Contre sa femme, contre son mari, contre les frères et sœurs. Et c'est juste une manière de reporter la colère contre Dieu sur les autres. Mais il y a des croyants qui ont un géant de leur vie qui s'appelle la colère contre Dieu. Et puis un autre sujet qui fait malheureusement des dégâts aussi dans la vie des gens, c'est la pornographie. Il y en a qui ont des problèmes. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, des chrétiens ont des problèmes de pornographie. Ces problèmes contre lesquels nous luttons et dont on n'arrive pas à se débarrasser, nous avons fini par les appeler des géants, n'est-ce pas? Des géants. Peut-être que l'un de ces géants est sur votre chemin, je ne l'ai pas nommé, mais vous, vous le connaissez. Peut-être qu'une maladie de longue durée a rendu les voies de Dieu incompréhensibles pour vous, inacceptables pour vous. Et c'est devenu une lutte, non pas contre la maladie, mais contre Dieu qui ne veut pas vous guérir, d'après ce que vous pensez vous. Peut-être que vous avez un collègue qui vous rend la vie difficile au travail. Moi, j'en connais des collègues qui ont des problèmes avec d'autres collègues et c'est très compliqué pour eux. Un collègue qui ne cesse de se moquer de vous ridiculiser, et ainsi de suite. Je n'ai peut-être toujours pas nommé votre géant, mais vous, vous le connaissez. Vous seul, vous le connaissez. Alors, j'aimerais vous donner la définition d'un géant. C'est quoi un géant? Alors, je vais vous afficher un texte. Je ne sais pas si vous arrivez tous à le lire de loin. Un géant, c'est une personne, une chose, un sentiment, une mauvaise habitude ou même un lieu. Ça peut être un endroit. Vous ne supportez pas d'y être. Un lieu qui finit par contrôler tes pensées, ta vie, et il sème la peur et la désillusion dans ton cœur. Voilà un géant. Une mauvaise habitude, mais ça peut être aussi un péché que Dieu veut supprimer de notre vie. Nous les chrétiens, nous soupirons vraiment, quand on est sérieux dans notre vie chrétienne, nous soupirons après une vie victorieuse, n'est-ce pas? Si vous êtes chrétien, comme moi, je sais que dans votre cœur, vous avez un grand désir de plaire à Dieu, de mener une vie triomphante, une vie de victoire contre la rancune, contre le doute, contre l'amertume, contre la colère. Mais au lieu d'une vie victorieuse, parfois nous faisons l'expérience d'une vie, malheureusement, sans joie, et une vie qui ne connaît que la défaite contre les problèmes et contre les péchés que nous connaissons dans notre vie. Alors je prie vraiment le Seigneur qu'il vous encourage maintenant, tout à l'heure et demain matin, en vous rappelant qu'il y a un chemin de libération. En tout cas, c'est ce que je voudrais vraiment que le Seigneur sème dans votre cœur définitivement. Il n'y a aucun géant qui soit géant aux yeux de Dieu. Les géants ne sont géants qu'aux yeux de qui ? De nous. Sinon, qui faisant du péché, quel qu'il soit, un péché imbattable. Mais aux yeux de Dieu, tous les géants du monde ont été battus par le Christ. Bien sûr, il y a des situations compliquées pour certains. Je ne veux pas minimiser certains combats. Mais de manière certaine, Dieu est un Dieu vivant. Et le Dieu qui nous a sauvés, c'est le Dieu qui veut que nous connaissions la victoire sur tous nos péchés. Parce que Jésus-Christ est venu nous libérer de tous nos péchés, et non pas de quelques-uns. Tous les péchés ont été mis sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu est venu pour nous donner la force de dominer nos géants, et même plus, nous en débarrasser complètement. Alors, pour tout de suite, je voudrais vraiment qu'on pose la base, le fondement, l'essentiel même de la victoire. Et c'est quoi l'essence même de la victoire? C'est que nos géants ont déjà été vaincus. Si nous croyons vraiment ça, nous allons mettre le premier pas sur le chemin que nous voulons emprunter et qui va nous mener vers la victoire. Alors je voudrais l'afficher pour que chacun de nous garde cette vérité dans notre cœur. Nos géants ont été déjà vaincus. Jésus-Christ est notre David et il a vaincu les géants. Et donc, avant même de vouloir combattre nos géants, il faut absolument s'armer de cette pensée, la mettre dans notre cœur, que Jésus-Christ est le David qui a combattu pour nous et qui a vaincu tous les géants de la terre, quels qu'ils soient. Un champion, Jésus-Christ, a gagné. Vous savez ce que c'est que ça? Ça, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est vraiment ça, l'évangile. Oui, Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu tous les péchés. Et tous les péchés ont été défaits. Et donc, tous mes géants ont été défaits. Je parle de David parce que je vais lire avec vous le passage de la Bible qui nous rappelle cette vérité à travers le combat célèbre, n'est-ce pas, de David contre Goliath. David contre Goliath. David, un jeune homme sans expérience militaire, va affronter un géant de 3 mètres. Et il va gagner. Il ne va pas gagner à cause de sa force, il ne va pas gagner à cause de son intelligence. Il va gagner par la grâce de Dieu, parce que Dieu lui a donné cette victoire. Alors nous allons d'abord lire dans 1 Samuel, chapitre 16, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. On va lire les versets 1. À partir du verset 1. Les Philistins, donc 1 Samuel 17, les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amin. Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armes. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait des bandoulières sur ses épaules. Excusez-moi, il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Les bois de sa lance avaient la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites. Il leur cria : Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat ? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous des hommes, un homme, et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta : Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Or David était fils d'un Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, et qui avait 8 fils. Au temps de Saül, Isaïe était très âgé. Ses 3 fils aînés avaient suivi Saül à la guerre. L'aîné s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. Quant à David, c'était le plus jeune. Lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David faisait le va-et-vient entre le camp de Saül et Bethléem pour y garder les moutons de son père. Chaque matin et chaque soir, le Philistin venait se présenter en face de l'armée d'Israël, et cela depuis 40 jours. C'est à cette époque qu'Isaïe dit à son fils David : Prends cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et porte-les vite au camp pour tes frères. Emporte aussi ces 10 fromages. Tu les donneras aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras de leur part un gage. Tu les trouveras avec Saül et toute l'armée d'Israël dans la vallée du chêne face aux Philistins. David s'est rendu et il a vu le Philistin qui lançait le défi à Israël. Vous connaissez l'histoire. David va terrasser le géant au verset 50. Il va même lui arracher la tête. Je m'arrête là pour la lecture pour l'instant. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas ? Et sans doute, vous vous dites, maintenant, il va falloir que je sois courageux comme David. Et peut-être que Jamel va nous exhorter à lutter contre nos géants, comme David l'a fait contre Goliath. C'est pas ce que je vais faire. Pas du tout. Parce qu'il ne faut pas commencer par là. En réalité, dans cette histoire-là, nous avons plutôt besoin de nous voir, non pas comme David, mais comme un soldat parmi les soldats qui ont la trouille, qui ont peur face à Goliath. Et cette histoire a été écrite dans la parole de Dieu, non pas pour nous présenter David comme un modèle que nous devons imiter, mais comme une figure prophétique de quelqu'un qui est venu pour combattre pour nous et nous délivrer. C'est vraiment ça le sens profond de cette histoire. Alors bien sûr, nous pourrons dire, sois comme David, etc. Mais si je viens de moi-même pour combattre comme David, sans avoir compris auparavant que j'ai un David, et que j'ai besoin de m'identifier à lui, plutôt que de chercher à faire comme lui, je ne pourrai jamais triompher de mes géants. Je ne veux pas vous offrir David comme un exemple à imiter. Je voudrais plutôt vous inviter à penser que vous êtes vraiment le soldat qui a peur et qui va être délivré grâce à l'intervention de quelqu'un d'autre qui viendra de l'extérieur, qui est David, c'est-à-dire le fils de David, c'est-à-dire le Messie, n'est-ce pas ? Jésus, Et le Messie, le fils de David, dans cette histoire, est une figure ou une illustration de l'œuvre qu'il a accomplie à notre égard. Avant de voir que Jésus est notre David, je voudrais revenir sur le fait que nous avons tous des géants à combattre. Je vais afficher ce premier point. Nous avons tous des géants à combattre et peut-être que vous faites partie de ceux qui perdent régulièrement. Les Philistins, un peuple voisin d'Israël, agressaient souvent le peuple d'Israël. Il y avait souvent des guerres. Et là, dans le chapitre 17 de 1 Samuel, nous trouvons à nouveau les Philistins qui attaquent le peuple d'Israël. Les Philistins s'installent sur un côté, sur une montagne, et en face d'eux, Israël, sur une autre montagne, et il y a la vallée entre les deux. Pour que vous imaginiez bien ça, c'est les supporters du Paris Saint-Germain d'un côté, et les supporters de Marseille, je crois, hein, c'est les deux ennemis, de l'autre, et vous avez le terrain du football qui est la vallée, d'accord? Et les équipes vont s'affronter. Et à cette époque-là, dans l'Antiquité, il était commun de commencer par des combats singuliers, c'est-à-dire au lieu que les deux armées s'impénètrent les unes dans les autres pour se détruire, on choisissait un combattant et on lançait un défi à l'autre armée. Et c'est ce que vont faire les Philistins. Et ils ont raison, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont une carte secrète. Hein. Leur carte secrète s'appelle Goliath. À mon avis, ils devaient faire comme ça dans l'armée. Et quand ils ont voulu le faire sortir, ils disent « Allez, viens Goliath !» Et là, il fait comme ça, hop, il domine tout le monde, 3 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez, 3 mètres. Sans bouclier, il fallait que quelqu'un le porte là, son bouclier. Il avait un enfant pour porter juste son bouclier. Sa lance faisait 60 kilos à peu près. Vous imaginez? Moi, je ne pourrais pas porter même 30 kilos. Hein. 60 kilos, c'est gigantesque. Donc les Philistins disent « Voilà, nous avons un champion. » Il est là. Qui veut combattre? Que font les soldats? Alors, quand vous voyez un mastodonte comme ça, ben forcément que vous avez peur. Qui pourrait relever le défi? Sauf que ce n'était pas une fois. C'était la deuxième fois, la troisième fois, et le défi a duré combien de temps? 40 jours. Vous imaginez les soldats, parce que le soir, les soldats rentraient dans le camp. Le lendemain matin, voilà que les soldats israélites étaient là sur la montagne, espérant que, par magie, Goliath aurait disparu. Sauf que, ben non, pas de magie, Goliath est toujours là. Moi, je pense qu'au bout de 15 jours, tous les soldats faisaient des cauchemars. Ils voyaient Goliath en train de leur courir après, de les manger, de les dévorer. En tout cas, ils ont dû perdre le sommeil, et en attendant le lendemain, ils devaient vraiment avoir peur. Et d'ailleurs, c'est ce que le passage de la parole de Dieu nous dit. Regardez au verset 11, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fui. Verset 11, 1 Samuel 17. C'est pourquoi, c'est à 2 Samuel, 1 Samuel 17, verset 11, quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, qui leur lançait un défi, « Qui de vous pourrait venir me combattre ?» Qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 11? Ils furent démoralisés. Et ils eurent une grande peur, ou une grande peur s'empara d'eux. Et c'est une réalité tellement forte que la parole la rappelle encore à nouveau au verset 24. « À la vie de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. » Et je pense que nous avons là une image de ces géants qui finissent par nous faire des cauchemars, qui occupent tout notre horizon. Un géant, c'est vraiment des pensées ou quelqu'un ou un lieu qui va nous hanter. On ne pense plus qu'à ça et on le voit toujours infiniment plus grand que nous, infiniment supérieur à nous, en train de nous écraser. Il nous terrorise, comme le dit la parole de Dieu, par rapport à Goliath qui terrorisait le peuple d'Israël. Imaginez hein, donc que vous êtes un soldat parmi ces soldats sur la montagne, voyant Goliath, l'entendant se moquer de Dieu, parce que c'est ce qu'il faisait. Il insultait l'Éternel. Il se moquait du peuple d'Israël. Et peut-être que pour chacun de nous, notre géant ne s'appelle pas Goliath, mais il s'appelle doute, pornographie, comme je l'ai dit, colère, rancune. Tous les matins, vous l'entendez qui vous défie, et vous savez que vous allez perdre, et ça vous démoralise aussi. La situation peut sembler bloquante, n'est-ce pas ? Ça fait 40 jours qu'il vient. Et au bout de 40 jours, qu'est-ce qu'on commence à désirer ? On commence à souhaiter que quelqu'un d'autre vienne nous délivrer. Et c'était ça le souhait du peuple d'Israël. Quelques mots que nous lisons en passant, mais que nous trouvons au verset 25. 1 Samuel 17, 25, qui nous dit... C'est, je lis à partir du verset 24, « À la vue de cet homme, tous les soldats d'Israël s'enfuirent terrorisés. » Et au verset 25, « L'avez-vous vu s'avancer contre nous ?» dit l'un d'eux. « Il vient encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra de grandes richesses de la part du roi. » Celui qui le tuera. Ah, on aimerait bien que quelqu'un se lève, n'est-ce pas ? Que quelqu'un vienne nous débarrasser de ce géant. Mais... c'est qui ce quelqu'un ? Qui va pouvoir le faire ? Ce n'est pas un des soldats qui est sorti. Eux, ils sont sûrs qu'ils vont se faire massacrer par Goliath. Alors, c'est qui ce quelqu'un qu'on espère venir nous libérer ? Ben, il s'appelle David dans cette histoire, n'est-ce pas ? Il est venu, justement. On aimerait tellement que quelqu'un vienne, et David arrive justement, et David va se porter volontaire pour libérer le peuple en détruisant ce géant. David se présente au roi Saül, et il se porte volontaire pour combattre le Philistin. Et comme je vous l'ai déjà dit, il a gagné contre ce géant. David est vraiment quelqu'un qui figure le Christ ici. David est envoyé par qui ? Par son père, n'est-ce pas ? Et Jésus est envoyé par qui ? Par le père. David est envoyé pour aider ses frères et sœurs. Jésus est venu pour aider les frères et sœurs. David n'est pas sorti du rang des soldats, il vient d'ailleurs. Il vient de la région ou de la maison de son père. Comme le Christ, Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui vient du rang des soldats, mais il vient de la maison du Père. Mais tout en venant d'ailleurs, il s'identifie au peuple. Il est un membre du peuple d'Israël, David. Et exactement, le Christ est un membre du peuple d'Israël et un membre de l'humanité. David qui vient, il va agir de manière particulière. Il va agir comme un remplaçant des soldats. Alors on emploie un mot théologique, on dit qu'il est un substitut. Un substitut, c'est quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait. Il est notre substitut. Notre substitut en tant qu'il est mort pour nous et à notre place. Mais il est aussi notre substitut en tant qu'il a vaincu pour nous et à notre place. C'est très important de garder ça dans notre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment notre substitut comme David. Et maintenant, la victoire de David, c'est la victoire de qui ? La victoire de David, c'est la victoire de tout le peuple. N'est-ce pas ? Moi, j'imagine ces gens qui étaient sur la montagne. Ils voient David descendre dans l'arène. D'abord, ils pensaient que c'était cuit pour lui. Ils le voient il n'est pas fort, il n'est pas costaud, il doute qu'il va réussir, mais David réussit quand même. Et quand il affronte ce géant, que le géant est par terre, qu'est-ce que vous pourriez entendre dans les rangs des soldats d'Israël? Là, il y a énormément de joie, n'est-ce pas? C'est la libération. Ils doivent sauter de joie. Et moi, je l'imagine tous se précipiter vers David, et ils le portent sur leurs épaules, ils font le tour de la vallée en criant quoi? On a gagné! En fait, qui a gagné, en fait? C'est David qui a gagné. Mais là, tout le monde devait crier « On a gagné !» parce que la victoire de David, c'est leur victoire à eux. Et c'est vraiment ça que Jésus a accompli pour nous. Le Seigneur Jésus, le fils de David, est le vainqueur en tant que substitut pour son peuple qui s'identifie à lui. Il a vaincu nos géants, il les a terrassés complètement. Ça, c'est la chose importante à retenir pour nous. Vous vous rappelez que la France a gagné plusieurs fois la Coupe du Monde. En 1998, je crois. Et 2018, on a marqué combien de buts, au fait? Trois. Qui a marqué le premier but? Zizou, c'est lui qui a marqué. Bon, d'accord, disons c'est Zizou. Mais qu'est-ce que les Français ont crié? On a marqué. Enfin, moi, je criais, on a marqué. Je n'étais pas sur le terrain. Hein. Je crois que tout le monde criait, on a marqué, on a marqué. Le deuxième but, on a marqué, on a marqué. Mais j'ai l'impression que j'étais avec Zizou, ou quand son pied était le mien, et que lorsqu'il a tiré, ben, c'est moi qui ai marqué le but. Et tout le monde est heureux. Et quand la France a gagné, tout le monde était à crier dans les Champs-Élysées, quoi? On a gagné. Mais si je ne me trompe pas, il n'y a que 11 qui ont gagné. Par contre, tous les Français ont gagné. Comment cela se fait-il? Mais parce que les joueurs qui ont joué pour la France, ils n'ont pas joué pour eux. Ils n'ont pas joué en tant que Zizou et je ne sais pas qui d'autre, 11. Ils ont joué en tant que représentants de tout le peuple français. Et quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu pour jouer pour lui-même. Il n'est pas venu d'ailleurs pour affronter ses géants à lui, parce que ce ne sont pas ses géants. Ce sont nos géants qu'il est venu affronter. Et lorsqu'il a gagné, il a gagné vraiment pour nous. Et lorsqu'il a gagné, nous pouvons courir avec joie, nous précipiter sur lui, et nous pourrions même, en tant que peuple de Dieu, l'élever sur nos épaules en criant « On a gagné !» Et lorsque nous déclarons que Jésus est Seigneur, nous ne faisons rien d'autre que l'élever justement au-dessus de tout en déclarant qu'il a été le vainqueur. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui nous parle de manière très claire de cette victoire de Jésus-Christ. C'est Colossiens chapitre 2 que je vais lire avec vous. Colossiens chapitre 2. Voilà, je vais vous afficher, je ne sais pas si vous pouvez voir le passage. Chapitre 2, on va lire les versets 13 à 15. L'apôtre Paul utilise une image magnifique qui parle de cette victoire du Christ à laquelle nous participons, victoire qu'il a acquise pour nous. Colossiens, chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. L'apôtre Paul fait référence à une pratique militaire qui avait lieu couramment, c'est le triomphe. Aujourd'hui, on construit En tout cas, il y a un arc de triomphe à Paris. Les arcs de triomphe étaient construits pour permettre à des généraux vainqueurs de passer en dessous lorsqu'ils avaient remporté de grandes victoires. Et donc les généraux romains que Paul a dû observer à Rome, puisqu'il était à Rome, par exemple Jules César, le plus connu, a fait 5 triomphes. Alors c'est quoi un triomphe? C'est que le général Jules César, par exemple, qui a vaincu les Gaulois, il avait arrêté Vercingétorix et il l'a amené à Rome, mais avec les richesses de la Gaule, avec les prisonniers, et on faisait un défilé militaire grandiose. D'abord, on avait toutes les richesses spoliées par le vainqueur qui défilaient dans les rues de Rome en premier, suivaient les prisonniers, et ensuite, vous aviez un char tiré par 4 chevaux blancs. C'était grandiose, c'était magnifique. Le peuple romain remplissait les rues. Et le général défilait debout sur son char. Jules César avait quelqu'un derrière lui qui lui tenait la couronne de laurier. Et derrière le général sur ses chevaux, sur son char à 4 chevaux, vous aviez l'armée vainqueur qui défilait, qui faisait la parade. Et à côté du général, il y avait des membres de sa famille. C'est cette image que l'apôtre Paul prend. Il dit « Jésus-Christ a fait un triomphe ». C'est quoi le char sur lequel il a triomphé Jésus? Ça, c'est le paradoxe. C'est la croix. Quand Jésus a été arrêté et mis sur la croix, c'est comme s'il était sur son char de triomphe pour manifester sa victoire sur tous ses ennemis. Et les ennemis ici, ce sont les autorités, ce sont toute autorité, tout pouvoir, toute domination qui marche devant lui ou qui sont traînés derrière lui, et Jésus montre qu'il a vaincu. Et il a vaincu notamment en enlevant à toutes ses forces leurs armes. Donc toutes les autorités, toutes les puissances qui peuvent lutter contre les chrétiens ont été désarmées par le Seigneur Jésus. Alors ils peuvent venir nous embêter, nous titiller, mais ils n'ont plus la force de nous défaire parce que Jésus-Christ les a déjà réellement et véritablement défaits. C'est ça ce que nous devons retenir. Jésus-Christ a vaincu nos géants. Il les a vraiment mis à terre. Ce qui est très important pour nous, et c'est ce que nous avons besoin de saisir par la foi, c'est que nous faisons partie de la famille de Jésus. Comme membre de sa famille, nous défilons avec lui en tant que triomphateur, en tant que vainqueur. Nous marchons à ses côtés. Et il veut faire même plus pour nous. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut nous faire monter sur son char de triomphe. Et c'est vraiment ça qui va nous donner de triompher de tous nos péchés qui nous rendent la vie compliquée, de tous les géants contre lesquels nous luttons. Savoir que Jésus a triomphé, qu'il a désarmé tous les péchés, tous les géants de notre vie, et plus encore, et nous invite à monter sur son char et à défiler avec lui. En tout cas, c'est la promesse que Dieu nous donne. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7, Dieu nous dit que nous sommes installés où ça? Que nous sommes assis où? Dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. À côté de qui? Avec qui? Avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Vous avez ce verset. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités, nous sommes vivants avec le Seigneur Jésus. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes et donc nos pieds sont posés sur nos géants. Ils ne nous dominent pas, c'est nous qui les dominons. Et nous avons besoin de comprendre ça. Nous avons besoin de nous saisir de cette promesse de la parole du Seigneur. Alors, je peux vous dire de monter sur le char de Jésus-Christ, parce que c'est l'invitation qu'il nous adresse. Voilà, monte sur le char de Jésus-Christ. Et vous savez, lorsqu'on est avec Jésus-Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, nous sommes bien haut, n'est-ce pas? Et nos ennemis ne sont plus des géants. On change de perspective, ils deviennent des péchés ordinaires, j'allais dire des minus. Plus nous sommes conscients de notre privilège d'être auprès du Seigneur Jésus, bénéficiant de sa victoire, plus le péché deviendra petit à nos yeux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le mépriser, je suis en train de dire qu'il faut regarder à Jésus-Christ. Et plus nous regardons au Christ, plus nos péchés seront petits. Je ne me compare jamais à mes géants, parce que je serais vraiment bien minuscule à leur égard. Mais je compare mes géants à mon Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il est vraiment géant. S'il y en a un qui est géant, c'est le Christ. Et c'est lui qui nous donne la victoire sur tous les géants de la terre. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important pour nous de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Lorsque vous pensez à Jésus, quelle image vous vient à l'esprit? Peut-être que vous pensez à l'humble Galiléen, fatigué sur la route. Il a eu faim, il a eu soif. Mais qui est Jésus aujourd'hui? Ce n'est pas l'humble Galiléen, ce n'est pas l'homme qui s'est humilié il y a 2000 ans. C'est celui qui remplit tout le ciel et toute la terre et le monde entier. Nous ne croyons pas en Jésus qui est resté humble et faible pendant toute l'éternité. Nous croyons en un Jésus glorieux, qui est tout puissant, qui est infiniment plus puissant que tous les péchés du monde. Et parce que je regarde à Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le vainqueur, le ressuscité, alors je peux être sûr qu'avec lui, j'aurai absolument la victoire. C'est très important pour moi de me rappeler qui est Jésus-Christ, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais enfant, ma grand-mère habitait dans sa maison à côté de chez nous, et au Maroc, la grand-mère, il fallait absolument l'inviter à tous les repas. Sinon, c'était la guerre. Donc, nous habitions à la campagne et il faisait extrêmement noir. Quand il fallait l'appeler le soir pour qu'elle vienne manger chez nous, je devais, quand c'était mon tour, sortir dans la nuit noire, faire 100 mètres pour chercher ma grand-mère. Je crois que j'ai battu les records du monde de la vitesse. Hein. Parce que les 100 mètres, je les faisais comme un oiseau. Je volais. J'avais tellement peur. Vraiment. Et mes parents habitaient à la campagne. La journée, je savais que ça, c'est un rocher. Ça, c'est un sac de plastique. Et la nuit, mais c'était des monstres. C'était des loups. Et parfois, je suppliais mon frère. « S'il te plaît, mon frère était grand, costaud, tu ne voudrais pas m'accompagner ?» Et quand il voulait être gentil avec moi, il me dit « D'accord, allez, viens, je t'accompagne. » Et il me tenait par la main et nous marchions. Et vous savez quoi? Je n'avais plus peur. J'étais apaisé. Et comme par magie, tout ce qui était loup reprenait sa nature véritable. Ce n'était plus que des sacs plastiques ou des pierres. Alors nous avons tous un grand frère à qui nous pouvons faire appel. Et vous savez quoi? Il nous tient par la main. Il marche avec nous tous les jours. Et lui, nous tenons par la main, tout ce que nous voyons de géant reprendra sa véritable nature, c'est-à-dire des péchés, de mauvaises habitudes, des choses qui ont été défaites par le Christ, et quand il les regarde, il se couche devant lui. Et il se couche donc devant nous. Alors oui,
Nous avons un David qui a terrassé nos géants. C'est ce que je voudrais vraiment que le Seigneur sème dans notre cœur. Amen. Voilà, nous allons prier. Merci, notre Père. Merci parce que tu es un Dieu qui nous a libérés de toutes nos craintes, de tous nos péchés, et tu nous as donné un Sauveur plus haut que tous les cieux. Nous l'adorons, nous le glorifions, et nous te rendons gloire de ce que tu ne nous laisses pas à nous-mêmes combattre dans la faiblesse, mais tu nous revêts de la force de ton Fils. Et nous voulons nous accrocher à lui, nous voulons vraiment saisir sa main tendue vers nous, afin de marcher à ses côtés avec l'assurance que plus rien ne pourra nous défaire, mais qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Romains 8, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les... rien au monde ne pourra me séparer de l'amour de Christ, parce que avec Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. D'ailleurs, le texte dit « Je suis plus que super vainqueur ». Donc, tous les chrétiens sont des super vainqueurs en Jésus-Christ.